Je vais lire un texte qui s'appelle Le goût de Fukushima. Le riz aux haricots rouges, appelé osekihan, est un plat sophistiqué. C'est surtout un grand classique. Il plaît par sa couleur, le riz prenant la jolie teinte rosée de l'eau de cuisson des haricots rouges. Pour préparer l'osekihan, je mets d'abord les haricots à tremper dans une marmite la veille au soir avant d'aller me coucher et je les laisse toute la nuit. La disposition de la cuisine de ma grand-mère me revient alors à l'esprit. Quand j'allais en vacances chez mes grands-parents, ma grand-mère préparait toujours de l'osekihan au moins une fois. En la voyant mettre à tremper les haricots, j'avais le cœur qui battait parce que je savais qu'un bon repas nous attendait le lendemain. L'osekihan est traditionnellement associé aux fêtes, sans doute parce que, au-delà même de sa couleur vive, les ingrédients qui le composent étaient jadis onéreux et que la préparation nécessite beaucoup de temps. Le fait que ma grand-mère m'en prépare pour me faire plaisir, alors que c'est un plat de fête, m'apparaissait comme un témoignage d'affection, un signe de l'importance qu'elle accordait à mon séjour chez eux, et cela me rendait heureuse. Dans le silence et le demi-sommeil de la nuit, allongée sur le futon entre mes grands-parents, cela peut paraître étrange aux yeux d'un Français, mais au Japon, il est courant que les enfants dorment entre leurs parents. Il me semblait entendre les haricots gonfler. Quand j'y songe aujourd'hui, je me dis que j'ai peut-être rêvé ce bruit imperceptible au sens, contrairement à celui du riz trempé, dont les grains émettent un petit craquement bien distinct en s'imprégnant d'eau. Rêvé ou non, ces impressions d'enfance en disent long sur le calme des nuits de Tokyo à l'époque. Dans le profond silence de la nuit, je tendais l'oreille à la croissance nocturne de ces petits êtres vivants. Je tombe par hasard sur un article de gastronomie présentant des produits de Fukushima. C'est dans un magazine de cuisine japonais auquel je suis abonné pour me rappeler les goûts auxquels je n'ai pas accès ici à Paris. Je le reconnais, il y a quelque chose d'un peu masochiste à s'obstiner à contempler ces aliments virtuels. Ces images des produits de Fukushima en particulier, et sont doublement virtuelles aujourd'hui, ces produits étant pour la plupart impossibles à se procurer désormais, soit que la pêche soit trop dangereuse, soit que la culture ait été interdite pour cause de contamination des sols. J'ai dit que j'étais tombée par hasard sur cet article. Mais en feuilletant les précédents numéros du magazine, je m'aperçois qu'il s'agissait d'une série d'articles sur la richesse gastronomique de la région de Fukushima. Évidemment, vu la nature du magazine, il s'agit d'articles passablement publicitaires, probablement soutenus par la chambre de commerce ou l'office de tourisme local. Toujours est-il qu'il s'agissait de promouvoir la région et d'attirer les touristes par le biais de la gastronomie et des produits du terroir. C'est un signe. Je regarde ces images de plats que je n'aurais jamais mangés sur place puisque je ne suis jamais allée. Mes amis, grands voyageurs, disaient toujours que s'il y a un pays où on veut se rendre, il ne faut pas hésiter à partir. Parce que la carte du monde change plus vite que qu'on le pense, qu'un conflit, qu'un état de guerre ou toute autre situation exceptionnelle sont vite arrivées qui nous interdiront l'accès. Alors, il sera trop tard pour le regretter. Mais à l'époque où nous évoquions ces questions, ni moi, ni mes amis, n'imaginions qu'une partie du Japon pourrait un jour être concernée. Il se trouve que je possédais aussi par hasard quelques bouteilles de saké de Fukushima. Je les avais achetées à l'aéroport à mon retour du Japon en novembre dernier. Du saké fabriqué par un producteur de renom. Située à 60 km de la centrale, la fabrique a échappé au tsunami. On continue de produire du saké sur le site. Le label affirme que les bouteilles encore en vente ont été produites l'année dernière et que les réserves sont bien à l'abri. Les ouvertures ont été obturées et dans la cave, le comptageur indique 0,06 microsieverts, soit un taux de radiation normal. En revanche, les rizières de domaine n'ont pas été plantées cette année et l'on sait bien que de toute façon, on ne pourra plus boire ce saké comme avant. Ce n'est pas que l'on ne fasse pas confiance aux producteurs, mais le seul fait qu'ils soient contraints d'indiquer le taux de radioactivité signifie que l'on ne pourra plus boire son saké sans penser à cela. Même si le taux de césium n'a pas vraiment augmenté, dans l'imaginaire, au moins, le goût du saké aura changé, comme beaucoup d'autres choses qui sont désormais irrémédiablement suées dans l'image que l'on s'en fait, bien qu'elle ne le soit pas dans la réalité. Dans les années 1960 et 1970, un groupe d'artistes néo-dada appelé Highlight Center crée régulièrement des happenings. L'un de ces événements s'intitulait « Campagne de promotion de l'ordre de la propreté dans l'espace métropolitain ». Revêtus de blouses blanches et de masques, les artistes s'attelaient à un grand nettoyage en plein centre-ville. Ils nettoyaient et lessivaient les rues de façon maniaque avec cette pancarte. Nettoyage en cours. La performance eut lieu juste avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Conçue sans doute comme un acte critique ou du moins ironique à l'égard des grands aménagements en cours en vue de cet événement. Pourtant, si l'on pense à ce happening aujourd'hui, il évoquera spontanément la décontamination d'un sol irradié plus que toute autre chose. À propos de ce happening, le critique d'art Savaraguinui écrit « L'histoire de l'expression artistique est, elle, aussi irradiée. Par exemple, même le happening de non-sens, jadis orchestré par Highlight Center, est aujourd'hui marqué d'une signification, celle de la décontamination. L'expression artistique, le goût, la mémoire, le paysage, même s'ils ne sont pas contaminés en réalité, sont ainsi irradiés. Je mets les haricots rouges à cuire dans l'eau chaude, juste frémissante, à feu très doux, pour éviter que leur peau ne se fonde. À un moment, je sors un haricot à l'aide d'une cuillère et je l'écrase entre deux doigts pour vérifier la cuisson. Les doigts courts et charnus de ma grand-mère, un peu raidis par le rhumatisme, le toucher de ses doigts me reviennent. Je pourrais reproduire ce toucher à l'instant même. J'exécute le même geste. Chaque fois qu'elle examinait les haricots de cette façon, je lui demandais de m'en donner un à moi aussi pour faire pareil. La recette n'est écrite nulle part. C'est mon corps qui conserve toutes les sensations et reproduit les mêmes gestes et de fait, le même plat. Je me demande si ce n'est pas justement pour réveiller en moi ces gestes de ma grand-mère que je ne peux reproduire qu'en préparant l'osekirin que je fais ce plat. Ou plutôt pour revivre cette nuit paisible et silencieuse, ce sentiment de sécurité absolue que l'on n'a qu'auprès des personnes que l'on aime, dans l'attente d'un lendemain qui promet d'être heureux. Je regarde les photos de l'article dans le magazine. Saul pesant jusqu'à 1,5 kg, puis les sauvages, producteurs de saké. L'article s'œuvre sur ces mots. Le département de Fukushima, le troisième de Japon par la superficie, regorge de saveurs développées par sa nature généreuse et la particularité de son terroir. Sawaraginui a raison. Cette phrase que j'aurais lue sans broncher il y a quelques mois, le numéro est daté de janvier 2011, elle est irradiée malgré elle. Comme pour d'autres alcools, les bons ingrédients ne suffisent pas à faire un bon saké. Le goût du saké doit beaucoup aux compétences du maître saké qui détermine la durée et les conditions de la fermentation pour obtenir le résultat désiré. Il y a aussi les bactéries qui favorisent la fermentation qui diffèrent d'un atelier de fabrication à l'autre. Chez les anciens producteurs, la cave élève ainsi ces bactéries spécifiques des habitants du lieu, pour ainsi dire. Ces bactéries participent à la fermentation et contribuent au caractère propre de chaque saké, au même titre que la levure que l'on y introduit. Si l'un de ces composants vient à manquer, ça ne sera plus le même saké. Ainsi, même si le personnel a réchappé à la catastrophe, le producteur qui aura perdu sa cave aura bien du mal à développer de nouveau le même type de bactéries. Et celui qui aura conservé sa cave, mais qui aura perdu son maître saké, aura perdu une partie essentielle de ses secrets de fabrication. Quant au producteur qui aurait conservé son personnel et ses caves, mais qui se situe dans la zone, il devra tout abandonner, alors que le saké était en train de fermenter, tout comme mes haricots qui grandissaient. J'en suis certaine, cela doit être aussi pénible que de devoir abandonner ses vaches et ses poulets pour un éleveur. Sans même parler des producteurs traditionnels, établis pour certains depuis plus de 200 ans, qui ont subi des dégâts de tsunami ou de tremblements de terre, quatre producteurs de saké se sont retrouvés dans la zone de déplacement obligatoire. Je fais chauffer de l'eau dans une grande marmite sur laquelle je dépose un récipient en bambou pour la cuisson à la vapeur. Ma grand-mère en avait de beaucoup plus grands, qui étaient faits de bois, des récipients très lourds et qui sentaient bon le mélange de bois, de feu et du riz bouillon. J'étale un torchon en coton bien propre et je renverse dessus le riz trempé au préalable dans l'eau de cuisson des haricots rouges. Le riz a déjà pris une légère teinte rosée. Je creuse un puits au milieu pour laisser la vapeur s'échapper. Minato Chihiro, photographe, me montre les photos qu'il a prises de la région touchée par le tsunami. Il dit « Quand on est sur place, ce qui frappe le plus, ce sont les assiettes et les ustensiles de cuisine projetés par terre. Alors, on comprend que ce sont les objets que l'on trouve le plus dans n'importe quelle maison. Quel plat avait été servi dans ces assiettes ? Le thé qui était dans ses tasses, quel goût avait-il? En voyant les sinistrés et les déplacés à la télévision, je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer ce qu'ils avaient aimé manger. Comment était leur salle à manger? De quelle lumière s'éclairait-il? Que mangeait-il? Qu'est-il advenu des saumures ou de la pâte de soja qu'ils conservaient dans leur cave et qu'ils ont dû abandonner? Rien de tout cela n'est très concret ou visible. Rien de tout cela n'est calculable. Donc, rien de tout cela n'est calculé parmi les pertes et dégâts. Mais c'est bien là le plus remarquable dans la catastrophe du 11 mars dernier. L'ampleur des pertes non calculables. Bien sûr, toute catastrophe entraîne son lot de pertes non calculables. Les paysages, l'histoire de la ville, du quartier, la mémoire individuelle et collective. Certaines sont réparables selon l'importance des dégâts. On peut consacrer son énergie à reconstituer la mémoire collective d'un lieu s'il est de nouveau possible d'y vivre. Certains producteurs s'efforceront de fabriquer le même produit ailleurs en repartant de zéro. Un fabricant de shoyu d'Iwate qui a perdu sa cave apprend que sa levure seule est sauvée. Il repart sur ses traces. Il en va de même après la mort d'une personne. Il y a des choses qui restent tout éphémères, qu'elles soient comme souris ou haricots rouges de ma grand-mère. Mais si l'on perd tout à la fois, jusqu'au repère où attacher le fil de sa mémoire, si l'on perd à la fois ses proches, le paysage de la ville où l'on habitait, et même le droit d'y revenir, contrainte à exil dans son propre pays, perd-on aussi, alors, jusqu'au plaisir de retrouver en bouche le goût de son plat local préféré, désormais interdit pour cause de sol contaminé. À mi-cuisson, je soulève le couvercle et verse une nouvelle fois l'eau de cuisson des haricots rouges. Alors, le riz absorbe l'humidité comme la pierre chauffante sur laquelle on verse de l'eau dans le sauna. Il prend des couleurs, c'est bientôt prêt. Minato me l'a dit aussi. Les agriculteurs qui ont dû abandonner leur rizière en pleine croissance à cause du risque de contamination affirme que les épis du riz étaient particulièrement beaux cette année. Cette vigueur spectaculaire avait-elle une cause extérieure ou reflétait-elle le regard de ces producteurs privés du fruit de leur travail et réduits à considérer ces épis comme une simple image? Je ne le saurai jamais. Je renverse d'un seul coup le contenu du récipient en bambou dans un grand seau en bois de cyprès d'Akita. Je fais griller du sésame noir avec un peu de sel et je saupoudre ce mélange sur le riz. C'est aussi éphémère que la fille aux allumettes, mais je sais qu'en ce moment même, une part vive de ma grand-mère existe intensément dans ce goût. Tout fugitif qu'il soit, il m'apparaît avec force, de façon plus concrète, disons, qu'une photographie. Après, je ne sais pas ce qui est possible, comment font les sinistrés pour persévérer dans l'éphémère, prolonger ce qui peut l'être, transmettre, réinventer. Mes idées peinent à trouver un chemin. Je pense à tous les goûts qui n'existent plus. Thank you.